Radiophonie.
Quand la psychanalyse donne de la voix.
Marie-Christine Lasnik est psychanalyste à Paris. Elle fut une analysante et une élève de Lacan. En ce jour d'octobre, dans son cabinet, elle a accepté de raconter à Julie Roth sa rencontre avec celui-ci, alors qu'elle était toute jeune praticienne, et la façon dont cette rencontre, analytique et humaine, l'a profondément traversée. Son témoignage nous donne à entendre combien le désir de Lacan était au cœur de sa pratique et de sa vie.
Marie-Christine Lasnik, merci d'avoir accepté cet entretien pour Radiophonie et de nous parler de votre rencontre avec Jacques Lacan. Alors justement, quand avez-vous rencontré Jacques Lacan et dans quel contexte ?
Alors, lui, personnellement, je ne l'ai rencontré qu'en juillet 1972 pour lui demander le nom d'un psychanalyste. Mais peut-être qu'il serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi, à cette date-là, une jeune psy qui fuit le Brésil va demander quelque chose à Lacan. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et en fait, les choses commencent au début des années 60, parce que Haroldo de Campos, je viens de poser la question là, pour être sûr, Haroldo de Campos, qui est un poète concrétiste très important au Brésil, qui avait une maison d'édition, avait été venu voir Lacan. Alors, je ne me sais plus du tout ce qu'ils avaient fait ensemble, mais il est revenu avec l'idée qu'il faisait des choses très intéressantes. Donc, j'arrive en 1967 à Paris, et je suis missionnée pour acheter les écrits et pour trouver des petits résumés des séminaires qui étaient faits par la... les gens de la psycho. Ils avaient une espèce d'association des étudiants de psycho, et ils avaient publié des petits livrets de résumés des séminaires. Donc je trouve tout ça, j'ouvre les écrits, je ne vous cache pas que j'ai rien compris en 1967, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux ce truc. Bon, je repars au Brésil, nous avions un groupe de travail qui avait déjà commencé en 1964, de lecture de Freud. Et c'était Regina Schneiderman, qui est quelqu'un de très important dans l'histoire de la psychanalyse au Brésil, qui voulait le livre et qui avait organisé ce groupe de travail. Moi, j'étais ado.
D'accord. Vous aviez quel âge ?
Et j'avais 17 ans.
D'accord.
Elle était notre prof de physique. Et elle avait deux...
Elle s'intéressait à la psychanalyse.
Prof de physique. Chimie, je dis une bêtise. Elle était notre prof de chimie. Elle était géniale. Elle décide de tout lâcher pour faire psycho et devenir psychanalyste. Elle aurait tout lâché pour faire de la poésie chinoise du haut Moyen-Âge. Je serais une spécialiste de poésie chinoise. Parce qu'elle était tellement merveilleuse et enthousiaste que je l'aurais suivie partout. Je ne vais pas vous dire qu'à 17 ans, je voulais devenir psychanalyste. Ce ne serait vraiment pas vrai. Il y a quelqu'un d'autre qui est son meilleur élève de l'autre lycée, elle invite ses deux meilleurs élèves, et l'autre s'appelle Betty Milan, qui vient de sortir encore un film sur son analyse avec Lacan aux États-Unis. Donc, Betty, elle est un peu plus âgée que moi, elle vient de rentrer en première année de médecine, moi et Regina. Betty trouvera quelqu'un d'autre, et on commence un groupe tous les dimanches de lecture de Freud du début jusqu'à la fin. C'est dans ce contexte que j'arrive en 67, pour faire des études, et je ramène au Brésil le fameux écrit et les petits résumés des séminaires. Bon. Après mon retour au Brésil, il y a un psychanalyste de l'école freudienne qui passe et qui raconte son analyse avec Lacan, les séances courtes. Je me rappelle que moi j'avais 5 séances par semaine de 50 minutes, et je dis à mon analyste, mais quelle horreur ça doit être, si vous vous leviez au bout de 5 minutes pour me virer, ça serait terrible. Vous voyez, j'étais vraiment tout sauf prédisposée. Et il y a donc Joatier, il s'appelait. C'était quelqu'un qui après est parti à l'école freudienne, il doit être décédé depuis longtemps, c'était un Libanais. Il nous raconte ça. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui vient nous parler de Lacan. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. C'est que le mari de cette dame était le patron du département de russe de l'université et un grand copain de Jacobson. D'accord. Donc, nous nous retrouvons déjeunant avec Jacobson. Et il présente sa femme et ses jeunes femmes qui s'intéressent à Freud. Vous vous intéressez à la psychanalyse, mais il faut absolument que vous lisiez mon ami Lacan. C'est indispensable. Donc, Betty Milan prend ses clics et ses claques, vient à Paris demander une analyse avec Lacan. Moi, je ne me sens toujours pas concernée. Bon, j'arrive en 72, j'ai un procès politique, je fuis. Hein? Donc, dans une situation très difficile, où je laisse tout là-bas, un bébé, c'était très compliqué. Et, comme j'ai fui, les collègues politiques de gauche m'accueillent. Et on me présente des collègues. Donc, on me présente Marcel Tchermak, qui n'était pas du tout un analyseur avec Lacan non plus. Et on me présente Juliette Lebin. Et je dis aux deux, je voudrais trouver un psychanalyste. Oh, mais tu as fait une analyse bionienne, anglo-saxonne, 5 fois par semaine, 50 minutes. Il n'y a que Lacan qui connaît ces choses-là. Ce n'était pas faux, d'ailleurs, parce que c'était le seul qui avait travaillé avec Mélanie Klein, qui connaissait bien l'école anglaise. Il n'y a que lui qui peut te conseiller. Marcel était très, très animé, il avait très envie de connaître Lacan. Il l'avait invité pour parler à l'internat, mais il n'avait jamais été, lui, faire une analyse chez lui. Donc, je vais chez M. Lacan pour lui demander le nom d'un analyste. Bon. Alors, je crois que c'était sa première expérience de quelqu'un qui ne voulait pas faire une analyse avec lui.
Vous ne vouliez pas?
Moi, non, je... Écoutez, comme je lui ai dit, vous êtes la couverture d'un gros livre où j'ai rien compris. Il me dit que ça le gêne aussi d'avoir d'être la couverture d'un gros livre. Mais ça devait l'intriguer, quelqu'un qui ne voulait pas faire une analyse avec lui. Je lui dis, je veux un psychanalyste tout simple, pas quelqu'un qui est la couverture d'un gros livre. Moi, vous savez, j'arrive et il y avait la dictature, il savait, hein, tout le monde savait ce qui se passait au Brésil. Donc ça l'intéressait beaucoup. Il me dit, revenez la semaine prochaine, je vous donnerai un nom. Alors, il se mêle de me trouver des études. Il me téléphone parce que donc, il faut que je fasse un DESS, c'est le master. Il téléphone à son ami Balandier. Il vous avait un rendez-vous avec lui. Et revenez la semaine prochaine. Et 4 fois, il ne me donnait pas de nom. Alors, je finis par lui dire le 4e jour, la 4e fois que ça suffit. Ça, c'est fin juin. Il y a les vacances. Et je demande un stage au centre Alfred Binet où j'ai travaillé toute ma vie. Où vous êtes venu d'ailleurs, faire la formation sur les bébés. Et je demande un stage de psychologue. On regarde mon CV, donc vous êtes trop calé pour un stage de psychologue. C'est vrai que j'avais déjà 2 ans et demi d'analyse, et surtout j'avais pris des patients au centre de la fac, des enfants. Et... Ah non, vous pouvez faire un stage comme psychothérapeute, mais pas comme psychologue. Bon, moi je veux bien faire un stage de tout ce que vous voulez. Donc, je commence en septembre, on me donne des patients tout de suite. Donc, j'arrive du Brésil, c'est le chaos. C'est quand même, bon, mon bébé est arrivé depuis, mais je commence en septembre, j'ai des patients. Écoutez, j'ai besoin vraiment d'aller voir un analyste. Et les patrons du centre Alfred Binet sont tous SPP. Ah, mais il faut que tu fasses une analyse avec un didacticien. J'ai rien demandé non plus. J'ai toujours rien demandé. Ah, mais il n'y a personne, il n'y a pas, à l'époque, l'SPP, c'est tout petit, il n'y avait pas assez, personne n'a de la place. Personne n'a de la place, bon, j'en ai un peu marre. Le 8 janvier de l'année d'après, 73, je vais chez M. Lacan et je lui dis, écoutez, monsieur, personne ne me donne de nom d'analyste et moi, j'ai besoin d'être, faire une psychothérapie, vous voyez, tout ce qui se passe dans ma vie, j'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez être mon psychothérapeute ? Il répond, aucun analyste peut refuser d'être psychothérapeutique. Et ça commence. Alors au début, une fois par semaine, ça m'a beaucoup aidé. Très vite, 3. Du coup, tout le monde me propose du boulot. Je trouve d'abord 20 heures, puis après, monsieur Lebovici, qui était théoriquement le chef de l'IPA, donc qui s'opposait au fait que Lacan prenne du pouvoir, mais qui avait été son élève, ouais, qui avait quand même beaucoup d'estime pour lui, me trouve plein de boulot, ça me permet de passer 5 séances par semaine, que c'est ce qu'il voulait, pour qu'on soit sur le divan. Mmh. Et voilà comment l'aventure a commencé. D'accord. Mais c'est important de comprendre, oui, qu'il y avait derrière cet intérêt au Brésil pour l'œuvre de Lacan, mmh, auquel j'écoutais tout ça, mais j'étais pas encore. Hein. Donc, après, ça commence. Hein. Ça, c'est donc une grande aventure, mais vous avez peut-être des questions, puisque vous voulez savoir comment on s'y est retrouvé.
Alors, je voulais vous demander, alors là, vous venez d'en parler, donc je voulais vous demander quels souvenirs vous avez de l'ambiance de son cabinet, de la salle d'attente,
ah, ça,
du rythme des patients qui entrent, qui sortent.
Je peux vous en parler. Il y avait beaucoup moins de gens chez Mellement, hein, pas photo. On attendait beaucoup moins. Donc, il y avait moins de gens, mais c'était quand même... Alors, les entretiens, ça durait beaucoup plus long, et les séances, ça durait entre 5 et 10 minutes, ça pouvait durer 4. C'était des séances courtes, mais c'est très important quand on a une séance tous les jours. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de dire et de redire aux lacaniens. Une séance courte, quand il y en a 2 par semaine, voire une, moi, ça me paraît inhumain.
Effectivement.
Mais quand on a une séance, on raconte un rêve. Il arrête sur un truc qu'il trouve très bien. Tout le reste du rêve, on n'a pas pu l'analyser. Mais on va à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante, puis à la suivante. Et au bout de la semaine, on a travaillé tout le rêve, vous voyez. Et ça, ça me paraît très important. Cette histoire de séances courtes et peu de séances, j'ai toujours pas compris comment ça marche. Personnellement, je comprends pas. Donc, il y avait effectivement beaucoup de monde. Il y avait les Italiens qui venaient. Ils se mettaient parfois... En colère avec tel ou tel grand personnage italien. Il me disait, mais lui, docteur, dites-lui, qu'est-ce que je peux faire, moi? Bon, et comme j'ai pu le dire à Lali, c'était quelqu'un de très physique. C'est-à-dire que les séances étaient courtes, mais avec une intense présence.
Hein? C'est-à-dire
Par exemple, je racontais aussi que il n'y avait pas cette table hein, qui date de Covid. Là, son fauteuil était tout de suite après. Tout d'un coup, ça coince quand on parle et j'entends. Je suis bercée par une respiration très théâtrale qui fait qu'on est bercé, et poum, ça sort. Hein? Et puis, à la porte, c'était toujours... Il tenait beaucoup la main. Charles fait aussi, Charles, qui est un analysant, faisait aussi beaucoup ça, tenir la main, mettre la main sur l'épaule. Et puis, vous parlez de trucs paradoxaux, comme par exemple le fait que mon manteau était trop fin, que j'allais attraper froid. C'était une façon, je crois, de permettre que l'autre sente quelque chose de sa détresse dont il ne se rendait pas compte, ou ne voulait pas se rendre compte, vous voyez, il y avait des choses comme ça, et j'en ai discuté avec d'autres gens qui ont fait de l'analyse avec Lacan, et tout le monde a des anecdotes comme ça, où il va tout d'un coup, une de mes collègues arrive, ou amie, que j'ai connue 20 ans après, mais qui faisait une analyse avec lui, il a les pieds mouillés, il va toucher les pieds mouillés, en me disant, vous allez tomber malade, mon petit. Donc le mon petit, est... Il y a quelque chose d'extrêmement chaleureux dans sa façon d'entourer. Et beaucoup de choses passent dans ce théâtre.
Voilà. Donc il recevait bien évidemment beaucoup de patients. Ah même si, pas tant que ça.
Pas tant que ça.
Est-ce que malgré ça, vous vous sentiez entendu?
Ah, complètement.
Et est-ce qu'il vous semblait très concerné par vos mots?
Alors, il faut parler, j'ai fait 8 ans chez lui. Je ne parle pas des 2 années après la lettre, quand il a décidé d'en finir avec l'école freudienne de Paris, c'est plus du tout la même personne. Mais je pense qu'il avait déjà des problèmes organiques à ce moment-là. Parce qu'on m'en a... Marcel en avait parlé un peu avant la lettre. Donc je pense qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des métastases déjà. Donc... Mais les 6 premières années, c'est quelqu'un d'extrêmement présent et attentif. Je vais vous donner un exemple, ce que j'y pensais ces jours-ci, j'avais des difficultés avec mon mari, et c'était un moment très très dur dans ma vie. C'est un samedi matin, et on est à la maison de la chimie. C'était gigantesque. Je ne sais plus s'il y avait 800 personnes. C'était gigantesque. Il y avait un immense hall dans la maison de la chimie. Et je suis côté du téléphone, j'essaye de le joindre, mon mari. Ça va très mal, j'ai peur de le perdre. C'est un moment très difficile. Lacan traverse cet immense hall, me voit, se pose à côté de moi et dit, demain matin, 8h du matin, donc dimanche, une séance à mon cabinet. C'est joli ça quand même.
Oui, c'est très joli.
C'est joli. Donc il y avait une espèce de possibilité chez lui d'être présent.
Ouais.
Hein, d'être présent quand il fallait.
Ouais.
Alors, je ne sais pas, il y a eu une fameuse histoire, parce qu'avec ce même mari, il y a eu un autre moment difficile, et c'était une fête au Pré-Catelan, parce qu'on faisait des grandes fêtes du temps des codes freudiennes, tout le monde était en robe du soir, on dansait, et Lacan danse une danse avec moi, il me marchait avec ses petits pieds comme ça. Alors, le fameux mari, à qui ça a beaucoup touché, hein, ça a eu un effet absolument... absolument extraordinaire sur la personne. Je suis restée 24 ans mariée avec lui après ça. Mais le fameux mari dit, non, c'est parce que tu étais très belle, mais je pense qu'il connaissait ma détresse, qu'il savait ce qui se passait et que c'était là aussi un théâtre pour me faire danser. Alors, il marchait, il traînait ses pieds par terre, il avait beaucoup de problèmes de locomotion. Donc c'était un truc... Mais je pense que c'était un acte, si vous voulez.
Ouais.
Et qui a très bien marché. Hein.
C'est-à-dire qu'en dehors de l'analyse, du cadre de l'analyse, il pouvait avoir des actes.
Bah, écoutez, là, c'était... ah oui, mais pour Marcel, il a fait des choses le jour où Marcel devait se marier et qu'il n'arrivait pas à s'en sortir. Il a dit, allez, on y va. Il a pris sa voiture, il a mis Marcel dedans, il l'a emmené à la mairie. Hein? Bon. Non, il pouvait faire des trucs comme ça. Et il pouvait aussi, un jour où il trouvait qu'on avait été malade, etc., prendre un numéro de téléphone, écrire, appeler un médecin, et il le faisait pas pour moi. Vous avez rendez-vous à telle heure, ça suffit, quoi. Vous voyez ? Donc, il y avait une espèce de présence. Charles faisait ça aussi. Il y avait une espèce de présence. On ne pouvait pas ne pas se sentir pourtant. Vous voyez ? Mais bon, il y avait des fois où il m'énervait, parce que je trouvais que les séances étaient courtes. Je lui disais, docteur, si ça continue, je vais aller voir un véritable psychanalyste. Ça voulait dire ceux de l'IPA. Ça ne le faisait ni chaud ni froid. Mais alors là, ça ne le faisait pas sourciller. C'était très drôle. La sensation qu'on avait en même temps, qu'il pouvait jouer ce jeu de présence, etc., et qu'en même temps, il y avait, on aurait fait un drame. Il était absolument pas atteignable, vous voyez. Ça, c'était très chouette aussi, très chouette. Puis bon, je me rappelle, parce que ça, j'allais même écrit, c'est publié, je manque 3 séances, j'en ai 5 hein, dans la semaine. Bon, je manque 3, c'est le matin de la 4e. Coup de fil, et mon mari me dit, je sais pas, il y a quelqu'un qui pleurniche au téléphone, là, je sais pas ce que c'est. Je prends, j'entends mon petit, je dis, vous direz ma mère, quand est-ce que je vous vois ? Je ne suis pas idiote. Je sais très bien que Lacan peut... Il n'a absolument pas besoin de moi à ce moment-là. Mais il met ce truc en théâtre. Alors évidemment, je lui dis, docteur, j'arrive. Bon. Et puis ça a des effets absolument extraordinaires, si vous voulez. Mais c'est cette mise en scène. Je n'y crois pas. Je sais que c'est du semblant. Je sais qu'il a sa vie, il a tous ses patients, son séminaire, sa maîtresse, c'est pas un problème. Mais il peut mettre en scène des trucs absolument extraordinaires. Et ça joue. Donc tout ça est vrai jusqu'à la dissolution.
Et comment ça se passe à ce moment-là pour vous ?
Alors d'abord, il n'écoute plus du tout. Alors là, je sais ce que c'est quelqu'un qui n'entend plus rien. Il n'entend plus rien. Il me dit, vous avez fait ma lettre. Ce qu'il veut, sa lettre. D'accord, pour la dissolution. C'est la seule chose qui l'intéresse. C'est un peu lourd, hein. Mais avant la dissolution, j'ai fait une supervision avec lui que je trouve géniale.
Voilà ce que je voulais vous demander.
Mais après, il voulait sa lettre, sa lettre, sa lettre, et c'était tout. J'avais l'impression qu'il n'était plus là. Je suis restée quand même jusqu'au 8 janvier, alors 8 ans après, donc 73, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 80, 80. Je restais quand même jusqu'au 8 janvier 80. Mais la dernière année, j'allais moins. Et puis, il m'avait demandé de traduire le séminaire 2 en portugais. Et je lui ai dit, je reviendrai quand le séminaire sera traduit. C'est moi qui ai... Mais là, on était très, très peu nombreux.
D'accord.
On était vraiment une toute petite poignée. Et il était très malade, il souffrait, on entendait qu'il souffrait, il perdait du sang, c'était vraiment un autre monde. Il était très malade. Et il y avait une fois d'ailleurs, on devait, il y avait moi et Éric Laurent dans la salle d'attente. Je me rappelle, Gloria arrive et dit, le docteur veut absolument se lever, il est malade comme une bête, c'est vous. Allez au café tous les deux. Comme on n'était pas des patientes à sérieux, quoi. Donc, Éric Laurent, moi, on était prendre le café parce que, bon, on était parlé de Vincennes qu'il était en train de, était en train de mettre sur pied. Voilà. Mais il y avait, on était très peu nombreux et il était très malade. Mais ça, c'est les deux dernières années. Mais pendant les six, il est d'une présence. Et puis, alors, j'ai fait donc mon premier patient sur le divan. Il a tenu à que je sois en supervision avec lui. Et je le trouvais très intéressant.
D'accord.
C'était un gars qui était un jeune ingénieur qui avait une espèce de dysmorphophobie. Il ne pouvait pas rencontrer des filles parce qu'il avait des gros mollets. Il voulait se faire faire une chirurgie plastique pour ses gros mollets. Il n'était pas possible. Il était tellement moche, tellement moche, tellement moche. Et puis, les associations venant, son père était, il était ouvrier de la presse. Et à l'époque, vous savez, les ouvriers de la presse, ils mettaient les petites, c'était les lettres les unes à côté des autres. Vous voyez, c'était comme ça qu'on écrivait. Donc, c'était important. Ils avaient une corporation très importante. Ils étaient très syndicalisés. Et sa mère était de la petite bourgeoisie, elle méprisait un peu cet homme, un peu beaucoup, terriblement. Et il y avait deux choses qu'elle ne supportait pas dans la bouche de son fils, les gros mots et les mollets. C'est pas beau ?
Si.
Ça, c'est Lacan, je ne m'entendais pas. Quand il a pu faire ça, ce gars, il n'avait plus de dysmorphophobie et il s'est trouvé une amoureuse. Que c'était une espèce de impossibilité d'identification à son père, un barrage que sa mère avait mis. Je trouve ça magnifique, vous ne trouvez pas?
Si, très.
C'est beau,
très,
hein?
Oui.
Bon, et ça, c'est avant la dissolution. Parce qu'après, c'était beaucoup plus difficile.
Donc, vous avez commencé ce contrôle, cette supervision, après ou à la fin de votre analyse?
Non, pendant.
Pendant.
Lacan aimait bien que pendant, non, c'était au bout de 5 ans.
D'accord.
Je n'ai pas pris un peu. Ah non, vous savez, j'ai commencé, j'avais 26 ans. 27, 28, 29, 30, 31. Je trouve que c'était bien d'avoir un premier patient sur le divan à 31 ans. Ça va. Plutôt, je pense que je ne me retrais jamais. Puis j'ai pris longtemps pour avoir plus de patients. Mais celui-là, j'ai trouvé ça très beau.
Je voulais vous demander, peut-être pour conclure un petit peu, qu'est-ce que vous avez appris avec Lacan? Comment vous diriez, qu'est-ce que vous diriez sur ce que vous avez appris avec Lacan? Qu'est-ce qu'il vous reste de lui dans votre pratique d'analyste aujourd'hui?
Je trouve ces questions très, très importantes. Tout d'abord, qu'on doit pouvoir jouer de quelque chose que j'ai ensuite théorisé, parce que j'ai appris que ça s'appelait l'amour de transfert. Pas tout à fait ensuite, parce qu'il en parlait dans les séminaires. Parce que Lacan voulait qu'on soit au séminaire, il voulait aussi qu'on aille au congrès. Ça, il était très...
exigeant.
Oh, il se dire qu'il n'était pas question qu'on vienne sérieusement pour l'analyse. Mm-hmm. Il aimait bien que je vienne à la présentation de malade. J'ai détesté, il faudrait que je vous raconte quelque chose sur la présentation de malade. Ça a à voir avec ce que vous dites. Donc, moi, ce que je crois que j'ai appris beaucoup, c'était cette présence, cet enveloppement, cette possibilité de jouer de l'amour de transfert. À l'époque, je l'entendais dire dans cet immense amphithéâtre C'était encore, hein, si vous croyez que je comprenais ce qui se racontait, pas beaucoup. La topologie non plus. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il disait, mes analysants font des progrès parce qu'ils m'aiment. Mmh. Mais c'est plus tard que j'ai lu le séminaire du transfert qui était beaucoup plus ancien et que j'ai trouvé toute sa théorie sur Erastès et Roménos. Comment, par le fait que l'analysant se met en place d'aimant, il va pouvoir permettre à l'aimé de devenir à son tour aimant et du coup pouvoir avoir un accès à son manque. Ça, c'est dans le séminaire du transfert que je ne connaissais pas, mais je le voyais. Et à l'époque, les gens autour qui n'étaient pas lacaniens disaient « c'est un grand séducteur et critiquait. » Ah, c'est un grand séducteur. Mais il a théorisé ça quand même dans le séminaire du transfert. C'est un jeu. Et donc, j'ai beaucoup appris sur la question du semblant et sur la question du théâtre. Y a Antonio Kiné, qui est un psychanalyste brésilien des forums, qui a coparticipé de la scission qui a créé les forums avec Colette Soler, et qui fait du théâtre. Il a écrit un très joli livre qui est publié en France sur théâtre et psychanalyse, où il reprend tout ce que Lacan a dit, parce que c'est pas très clair, il n'y a pas un séminaire qui s'appelle « Théâtre et psychanalyse », vous voyez, mais dans l'acte, il y a beaucoup de choses dans l'acte, et je pense dans le transfert, mais c'est une redécoupe. Il permettait de redécouper autrement. Alors moi, ce qu'il m'a enseigné, c'est que si on lit que les séminaires, c'est pas très facile de comprendre la pratique de Lacan, parce qu'elle est beaucoup plus de présence, beaucoup plus d'enveloppement que ce qu'on imagine si on imagine qu'il allait se mettre à souligner les signifiants. Dans ma vie, il a dû m'en souligner deux ou trois. Il n'était pas là en train de chasser le signifiant, pas du tout. C'était pas une fois ou deux, il l'a fait, une troisième, mais c'était pas ça. Donc, je trouve que parfois, les jeunes qui n'ont eu ni Lacan, ni Melman, ni d'autres analysants de Lacan, je crois qu'ils peuvent avoir une vision desséchée.
Oui, et pas très clinique.
Du coup, desséchée, oui. Là, vous voyez, parce que ça devient une espèce d'érudition où on cherche le signifiant, qui n'est pas du tout ce qu'était ma pratique avec lui, vous voyez.
Oui.
Alors, par contre, il m'avait absolument demandé, il voulait que j'aille à la présentation de Malade.
Ah.
J'ai été une fois, je trouvais ça horrible. C'est vrai que j'étais une jeune analysante, mais la façon dont là les choses se passaient, c'est-à-dire qu'il faisait un interrogatoire à cette personne, avec une espèce de... C'était plus du tout dans l'enveloppement, plus du tout dans le jeu. C'était un truc pour sortir... Après, sortir un diagnostic, j'ai trouvé ça terrible. Je lui ai dit que plus jamais j'y mettrais les pieds, parce que j'étais encore jeune, j'étais pas psychiatre, j'avais pas besoin de ça. Et par contre, il avait des analysants qui avaient importé à l'intérieur du centre Alfred Binet sa praxis à travers le psychodrame analytique.
Ah oui, mais j'y pensais tout à l'heure quand vous en parliez, justement.
Et donc, faire du... Je, le même jour, j'ai pris un taxi, je suis partie de là, et j'étais faire du psychodrame avec René. Et René Diatkin, qui avait fait 8 ans d'analyse chez lui, ça avait été son analyse, 5 fois par semaine, pareil, la façon dont il faisait les choses dans le psychodrame analytique ressemblait beaucoup plus à mon expérience de séance que ce que j'avais vu à la présentation de Malade. Bon, alors j'étais jeune et fragile. Bien sûr qu'aujourd'hui, je me dirais, c'est très intéressant, on va faire de la psychiatrie. Qu'est-ce que la psychanalyse apporte à la psychiatrie? C'est autre chose. Mais j'étais trop jeune. C'était une expérience difficile.
Ouais. Est-ce que vous auriez autre chose à ajouter avant qu'on...
Je pense qu'il faudrait vraiment que les jeunes lacaniens sachent que la séance courte n'a de sens que s'il y en a plusieurs dans la semaine. Et Lacan, il tenait à cette intensité. Mais vraiment, il y tenait beaucoup.
Très bien. On va s'arrêter là.
Bon.
Je vous remercie.
C'était Radiophonie, une émission proposée par Stéphanie Thor et Anthony Huard et propulsée par l'association lacanienne internationale.